Deutsche Welle. Droits et libertés.
Le militantisme au programme cette semaine avec la lutte des Oromo en Éthiopie et puis celle de jeunes citoyens congolais dans l'est de la République démocratique du Congo avec la seconde partie de l'entretien que nous avons mené avec Micheline Mwendike de la Lucha. C'est Sandrine Blanchard au micro. Bonjour à tous. Arrêtez le carnage, c'était l'un des slogans scandés à la mi-novembre à Berlin par des manifestants. Ils étaient venus se rassembler devant la chancellerie pour réclamer attention et solidarité pour le peuple Oromo en Éthiopie. Depuis plusieurs semaines, des manifestations d'Oromo sont réprimées violemment par les forces de l'ordre dans plusieurs villes éthiopiennes. Bourayou, Walisso, Haramaya, Djarso ou encore Robé. Le mouvement de protestation est parti d'un plan des autorités qui prévoit l'agrandissement de la capitale, Addis Abeba, et qui fait craindre des expropriations massives aux habitants de ces zones Oromo situées aux abords d'Addis. Un témoin qui souhaite garder l'anonymat affirme que 600 familles ont déjà été déguerpies en novembre dans la ville de Soulutla. C'est là qu'il vit et travaille comme paysan. Selon lui, les terrains ont été accaparés par l'État pour la construction d'une usine et les populations n'ont quasiment pas été dédommagées. Les familles expulsées ne savent toujours pas où s'installer, mais elles auraient été menacées d'arrestation en cas de refus du marché proposé. Le conflit entre les autorités éthiopiennes et les Oromo remonte à plusieurs années et il dépasse les craintes de confiscation de terres dans la région Oromia. Les Oromo sont l'ethnie majoritaire du pays. Leur région compte 27 millions d'habitants environ. Mais ils n'ont jamais eu accès aux instances dirigeantes. Ils se sentent marginalisés et discriminés par les gouvernements successifs de ne pas pouvoir s'impliquer dans la politique gouvernementale, comme le résume l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. En avril et mai 2014, des manifestations similaires à celles qui ont cours actuellement avaient déjà été réprimées dans le sang. À l'époque, le bilan des victimes divergeait énormément selon les sources. Human Rights Watch parlait de dizaines de morts. Le gouvernement éthiopien reconnaissait 8 victimes. Et lors des manifestations récentes aussi, le nombre de victimes est sujet à caution. Amnesty International en recense une quarantaine, les autorités 5 et Merera Gudina, président du Congrès des fédéralistes Oromo, un parti d'opposition, plus de 60. On écoute Merera Gudina.
La région est quasiment totalement sous administration militaire. Nous, on appelle ça un état d'urgence qui ne dit pas son nom. Des milliers de soldats sont déployés, surtout dans les écoles, les universités. Le gouvernement fait un usage excessif de la force.
Le gouvernement, lui, affirme que ce sont les manifestants qui terrorisent les civils. Faux, répond Merera Gudina, ce sont les soldats qui terrorisent la population et tuent des étudiants et même des enfants. Son parti poursuivra donc, malgré la répression, dans sa stratégie pacifique.
Nous avons écrit au gouvernement et même au Premier ministre. Nous en appelons au Parlement de prendre des mesures appropriées afin que les gens n'explosent, poussés par la colère et la frustration.
Les médias officiels ne parlent pas des violences contre les Oromo en Éthiopie. Les autorités ont refusé nos demandes d'interview. Alors les militants recourent de plus en plus aux réseaux sociaux pour faire circuler des photos, des informations et ainsi tenter d'attirer l'attention.
La communauté internationale ne fait pas assez. Les États-Unis, l'Allemagne ne font que regarder ce qui se passe tandis que le dictateur Dessalegn tue des enfants. Nous appelons la communauté internationale à accentuer la pression sur le gouvernement.
Droits et libertés.
Et maintenant, chose promise, chose due, je vous propose la seconde partie de notre entretien avec Micheline Mwendike, militante de la Lucha, la lutte pour le changement. C'est un mouvement citoyen de l'Est de la République démocratique du Congo qui tente d'impliquer davantage les jeunes, notamment dans l'action politique, alors que la RDC se prépare en 2016 à voter.
Je m'appelle Micheline Mwendike, je suis militante de la Lucha, lutte pour le changement.
Comment est-ce que vous discutez, vous transmettez ou vous avez vos idées? Est-ce que ça passe seulement par la discussion entre vous? Est-ce que vous avez des mentors, des modèles, est-ce que vous lisez? Comment ça se passe la circulation des idées au sein même des groupes de la Lucha?
Patrice Emery Lumumba. Il n'est pas un héros des Congolais seulement d'ailleurs. Il est un héros de tous les peuples qui ont été décolonisés. Et nous avons cette fierté qu'il a été Congolais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de se former. Il y a des gens qui ne se forment pas à les universités traditionnellement, mais il y a l'autodidactie qui est possible. Il faut lire beaucoup. Et les discussions sont très importantes parce que notre histoire n'est pas l'histoire des livres. Notre histoire, c'est l'histoire des réalités. Et ces réalités, nous les vivons chaque jour et qu'on ne va pas rechercher la réponse dans un livre quelque part. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont déjà écrit beaucoup sur leur situation, mais nous sommes en train d'écrire aussi notre histoire. Et on espère que plus tard, les gens le liront aussi avec fierté du travail que nous sommes en train de faire.
Est-ce que vous misez sur une sorte de coordination de la Lucha avec d'autres mouvements de jeunesse du continent? Je pense notamment au Yanamar, au Ballet Citoyen, avec qui vous avez eu des contacts, notamment au moment de l'arrestation de Fred Bauma au mois de mars. Est-ce que ce sont des mouvements comme ça aussi, en regardant ce qui se passe ailleurs, qui vous inspirent, ou est-ce que vous échangez constamment avec eux?
D'abord, la Lucha est née sans qu'on ne puisse connaître Yanamar, sans qu'on ne puisse être en contact avec Yanamar, ou Ballet Citoyen, ou n'importe tout autre mouvement citoyen qui existe en Afrique. Et donc, nous avons choisi beaucoup des aspects, comme le fait d'être un mouvement informel, d'être un mouvement citoyen. Ça, ce sont des choix que nous avons faits et que quand on se rencontrait, on était contents que, dis donc, il y a aussi des autres qui ont pensé comme nous. Et c'est que maintenant, après toutes les arrestations qui ont eu lieu, nous sommes plus unis. On n'est pas, les arrestations ne sont pas venues pour nous diviser. Les arrestations sont venues pour nous unir et pour voir jusqu'à quel point les problèmes sont trop, trop graves au Congo qu'il est peut-être au Sénégal ou au Burkina Faso. Toutes ces arrestations aussi dévoilent les mal congolais. Il met à nu les mauvaises intentions du gouvernement congolais à pouvoir changer sa manière de gérer la relation entre les politiques et les jeunes, et surtout les jeunes qui donnent une voix complémentaire à elle, pas la même voix qu'elle au fait.
Et est-ce que vous ne craignez pas la récupération politique? Parce que je pensais notamment au Trop c'est trop, au Tchad, qui a implosé peu de temps après sa naissance parce que certains membres ont décidé de quitter le mouvement et se sont fait récupérer par le pouvoir. Les Yanamar ont moins revendiqué après l'élection de Macky Sall. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi, si en RDC il y avait l'alternance, que des membres de la Lucha, par exemple, intègrent le gouvernement ou soient tellement proches des dirigeants que les critiques cessent?
Bon, en fait, on est dans le même mouvement, mais on ne peut pas dire nous allons empêcher les sentiments de tout le monde. Tout le monde doit penser d'une manière ou d'une autre.
Non, mais est-ce que vous en discutez de ça, de ce risque-là qui existe, puisqu'on l'a vu ailleurs arriver plusieurs fois?
Oui, nous en parlons très constamment. Ce n'est pas que ça n'a pas encore arrivé. Et c'est un risque permanent parce que les politiciens sont toujours là en train de nous guetter, en train de nous attirer et tout ça. Mais nous, jusque-là, on a tenu bon et on tient bon et on espère qu'on tiendra bon. Nous pensons que le plus important, ce n'est pas tout simplement de dire « je suis politicien » ou « je suis société civile ». Mais plus important, c'est de dire qu'est-ce que je donne à mon pays en tant que citoyen congolais. Ça, on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne se pose pas cette question et qui ne les répond pas, au fait, surtout quand tu as été militant ou quand tu es militant de la Lucha. Et La récupération politique, elle est là et nous faisons face à cette dure réalité, mais jusque-là, pas jusque-là, on continuera à tenir bon. La situation de Yanamar et Macky Sall, c'est une situation sénégalaise. Le contexte sénégalais est très différent du contexte congolais. Le contexte burkinabé ou tchadien est très différent. Nous vivons en fait notre propre réalité et on ne va pas la transformer en analysant la réalité de notre pays. Nous allons voir là où la lutte, disons, nous allons continuer à travailler pour le peuple et avec le peuple. Mais dire les autres, ils ont été manipulés, vous aussi, vous serez manipulés. Moi, je ne sais pas quoi dire parce qu'on n'a pas encore été manipulés. Ça fait 3 ans de lutte qu'on fait et on n'a pas l'intention de briguer le pouvoir. Donc, je pense que c'est suffisant, en fait, comme détermination. L'intention de ne pas briguer le pouvoir et le souci de toujours travailler pour le peuple. Il y a certains parmi nous qui peuvent avoir d'autres choix dans la vie, mais on ne va pas mettre ce choix-là sur que tout le mouvement a été manipulé. Si quelqu'un il pense qu'il n'est plus efficace au sein du mouvement et qu'il veut aller dans la politique, on ne doit pas lui défendre, disait, c'est un droit d'entrer en politique. C'est un droit que chacun peut avoir. Mais si moi j'ai fait mes choix et je les assume, ce n'est pas que tout le monde doit faire les mêmes choix que moi. Je veux que les personnes respectent mon choix et je dois aussi respecter les choix des autres.
Micheline Mouendi, qui est bon. Merci beaucoup.
Je vous remercie aussi.
Même si les gens autour de toi essaient de laver ton cerveau.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Micheline Mouendike, Birgit Morgenrath et Merga Jonas. Pour réécouter cette édition de Droits et Libertés ou télécharger l'ensemble des numéros déjà diffusés, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français, sans la cédille à français, à la rubrique Nos podcasts Droits et Libertés tout en bas de la page d'accueil. Et puis pour nous écrire, c'est toujours la même adresse, français@dw.com, sans la cédille à français, comme d'habitude. Salut et à la semaine prochaine.
On est prêt à bouger.